Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode pour un sujet encore inédit sur YogiBiz Podcast. On va parler aujourd'hui des retraites de yoga. Parce que j'avais de plus en plus de questions sur ce sujet, parce qu'elles m'inspirent le doux retour des opportunités de se déplacer, de voyager et d'être ensemble, j'ai eu plaisir à mettre ce thème des retraites à l'honneur cette semaine. Dans cet épisode, tu découvriras comment organiser ta retraite de yoga, par quoi commencer, quel est le programme idéal d'une retraite, combien de temps doit-elle durer, comment trouver le lieu parfait, à quelle période l'organiser, ou encore l'animer seul ou la co-animer, comment choisir. Au-delà des contours de l'organisation d'une retraite, nous verrons également ses obligations légales et juridiques et on abordera bien évidemment la partie financière, comment fixer son prix pour être rentable. Prépare-toi à quelques petits calculs. Et évidemment, nous aborderons également comment communiquer et promouvoir sa retraite pour la vendre, pour afficher complet. En répondant d'abord à la sacro-sainte question « Faut-il d'abord réserver le lieu ou demander qui est intéressé ?» Les bonnes pratiques pour ne pas avancer les frais ? Ou encore, quelles sont les étapes nécessaires pour promouvoir sa retraite et quel est le rétro-planning idéal? Pour m'accompagner dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Dominique de Lumina Travel Retreats, spécialiste de l'organisation de séjours bien-être. Je laisse donc tout de suite place aux présentations et à notre conversation. Bienvenue Marie-Dominique, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode de YogiBiz Podcast sur un sujet qui a été fortement plébiscité par mon audience. Mais avant de rentrer justement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et puis nous raconter l'histoire et la mission de Lumina?
Bien sûr, bonjour Cécile, merci de m'accueillir, je suis vraiment ravie d'être là. Je m'appelle Marie-Dominique, je suis la cofondatrice de Lumina Travel. J'ai travaillé plusieurs années dans le milieu du tourisme, dans des hôtels, des agences de voyage. Et j'ai cofondé Lumina Travel fin 2019. Donc qu'est-ce que c'est Lumina? C'est une agence de voyage qui est spécialisée dans l'organisation de séjours bien-être pour les professionnels de bien-être. Donc que vous soyez professeur de yoga, sophrologue, thérapeute ayurvédique, naturopathe, coach en fitness, bref, tout ce qui touche au bien-être, on se charge de l'organisation du séjour pour vous. Notre objectif, c'est vraiment de vous décharger de toute cette organisation qui peut être très fastidieuse, longue, et pour que vous puissiez vous occuper de votre domaine d'expertise, à savoir transmettre votre pratique.
Ok, et du coup, comment est venue cette idée de créer Lumina Travel?
Un peu par hasard. Donc mon associé et moi, on a travaillé ensemble à Singapour, on est resté en contact et on savait qu'on voulait retravailler ensemble, mais on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. On savait qu'il y aurait un lien avec le voyage, mais bon, le voyage c'est assez vaste. Et puis on a eu plein d'idées, puis ouais, c'est sympa, mais sans plus. S'il faut le faire, je le ferai, mais je suis pas à fond. Puis un jour, je cherchais une retraite de yoga pour moi et je trouvais rien qui me correspondait. Et je dis, Ying, je pense que j'ai une idée, il faut faire des retraites de yoga. Et en 30 secondes, c'était bouclé. Voilà, c'était l'idée. Et en creusant un petit peu et en échangeant avec quelques professeurs de yoga, on s'est rendu compte que il y avait cette volonté de la part des profs de faire leur retraite, mais souvent, il y avait une peur. Je sais pas par où commencer, comment est-ce que je trouve un lieu, qui va m'aider sur place, qu'est-ce que je dois prévoir, combien ça peut me coûter. Donc plein d'interrogations qui finalement les empêchaient d'avancer sur le projet. Et je me suis dit, en fait, c'est pas juste on va faire des retraites de yoga, c'est on va organiser les retraites de yoga pour les professeurs de yoga et autres thérapeutes dans le monde du bien-être. Et c'est comme ça que Lumina a vu le jour fin 2019.
Ok, c'est génial parce qu'effectivement, je travaille souvent donc avec mes élèves sur quoi proposer et quel business créer finalement, même si c'est par exemple juste des idées indépendantes de programmes ou autres. Et j'aime bien l'idée parce qu'on sent que quand l'idée est arrivée, déjà elle vient du marché. Voilà, vous êtes rendu compte qu'il y avait un besoin, qu'il manquait quelque chose. Donc ça, vous l'avez bien identifié. Et puis ensuite, c'est le fait de dire en 30 secondes c'était fait, dans le sens où quand on a déclic et quand on sent qu'on est aligné, qu'on a trouvé voilà, ce qu'on voulait faire et qu'on a sa mission, tout s'éclaire et ça devient évident en fait de se positionner et de se lancer. Donc je trouve que cette histoire elle est hyper intéressante pour ça. Alors à juste titre, hein, comme tu le disais, par où commencer, j'ose pas, j'ai peur, etc. C'est exactement ça. J'ai reçu énormément de questions de la part de mes abonnés, de mes élèves quand j'ai préparé ce sujet. Alors j'ai essayé de découper tout ça en trois parties. D'abord, comment organiser sa retraite en elle-même, je dirais le fond, la forme. Ensuite, j'ai eu beaucoup de questions, donc on s'attardera sur tout l'aspect financier, juridique, administratif, parce que je crois que tout ça c'est vraiment pas à prendre à la légère. Et puis on finira bien évidemment par tout ce qui est la communication autour des retraites, c'est-à-dire comment finalement je fais la promotion de ma retraite et comment je la vends, parce que l'organiser c'est bien, mais effectivement si j'ai pas de participants et si je la vends pas, si je fais chou blanc, c'est un peu dommage. Alors comme il faut bien commencer par quelque chose, justement lorsque l'on veut organiser sa première retraite de yoga, je suis devant ma feuille blanche, je sais que j'ai l'envie d'organiser ma retraite, par où je commence, quelles sont les premières questions que je dois me poser et peut-être les premières étapes par lesquelles je dois passer.
Je pense que les premières étapes, c'est un petit peu ce que toi aussi tu vas conseiller à tes clients, à savoir qui est mon client. Définir un peu sa cible. Si vous avez des élèves qui sont plutôt habitués à des hôtels 5 étoiles, vous n'allez pas leur proposer des dortoirs, par exemple. Donc vraiment, essayez de comprendre c'est qui le client qui va participer à mon séjour. Vous pouvez aller très loin hein, dans la définition du persona. Elle a quel âge ou il a quel âge? Est-ce qu'il est parent? Est-ce qu'il travaille en ville? Enfin, voilà, c'est vraiment se projeter sur qui est le participant. Donc là, on est vraiment en amont de l'organisation elle-même. Essayez aussi de réfléchir aux budgets qui seront prêts à payer pour cette expérience. L'erreur que je vois souvent, c'est « Oh là là, j'aimerais faire un truc vraiment grandiose, vraiment hyper luxe. » Oui, mais est-ce que ton élève a les moyens de se payer ça? Non, donc tu ne vas pas faire ça. C'est beau de vouloir faire ça, mais si tu n'as pas de clients, pas de participants, c'est dommage. Réfléchir aussi à combien de participants est-ce que réalistiquement tu peux avoir pour ce séjour. Encore une fois, l'erreur que je vois, c'est « Ah, j'aimerais avoir 15 participants, mais je me lance en tant que prof, j'ai pas de communauté, les gens me connaissent pas. » 15 participants, c'est pas facile. Hein. Donc soyez réaliste. Plutôt que de dire « Je vais faire une grosse retraite », commencez petit si c'est votre première. 5-6 personnes, c'est déjà très bien. On peut déjà faire des choses assez magiques et transformatrices avec un petit groupe de 5-6 personnes. Et si vous savez pas trop, si vous n'avez pas encore ces informations-là, n'hésitez pas à demander à vos élèves. Est-ce qu'ils ont déjà fait remonter des besoins? Est-ce qu'ils ont déjà dit « j'aimerais tellement faire une retraite avec toi, j'aimerais vraiment que tu nous parles plus des chakras ». Ok, voilà une idée de thème. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leurs attentes pour ce séjour-là? Et une fois que vous avez déjà cette base-là, vous pourrez plus sereinement organiser votre séjour.
Ok, ça rejoint effectivement hein, exactement si on résume ce qu'on identifie aussi lorsqu'on lance par exemple une offre en ligne, c'est à qui je m'adresse effectivement, et puis comme tu le disais très justement aussi, valider l'idée finalement quelque part avant de la lancer auprès de ma communauté ou des gens avec qui j'ai envie de travailler, de mes élèves, via des sondages en fait, via des enquêtes, aller chercher du feedback. Et alors qu'est-ce qu'on doit retrouver justement, tu parlais là à l'instant des chakras et de dire tiens ça peut être une idée de thème, alors qu'est-ce qu'on doit retrouver au programme dans une retraite justement pour une retraite réussie?
Je pense que ce qui est très important et aussi qui vous permettra de vous démarquer des autres, c'est d'avoir un thème, un fil conducteur qui lie les différents cours, les différents ateliers que vous allez proposer. Et aussi comprendre, ce que je disais tout à l'heure, les besoins de vos élèves. Est-ce qu'ils veulent se reposer? Donc là, ce sera plutôt une retraite avec du temps libre, on peut échanger plus tranquillement, de manière conviviale. Est-ce qu'ils sont là pour apprendre plein de choses? Et donc du coup, là, c'est du matin au soir, on fait des ateliers sur plein de thématiques qu'ils ont envie d'aborder. Est-ce qu'ils sont là pour transformer quelque chose en eux? Donc voilà, c'est quoi l'objectif pour eux de ce séjour? Et en fonction de ça, vous allez créer un thème, un fil conducteur pour ce séjour-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, une retraite de yoga. Il faut vraiment qu'on ait un planning clair, qu'on se dise, voilà, je sais que les horaires de repas, c'est de telle heure à telle heure. Je sais que le matin, on fait une pratique comme ci. Le soir, ce sera une pratique comme ça. Donc, vraiment l'avoir en tête comme ça, déjà, ça vous fait un stress en moins le jour J. Et les participants ont vraiment le sentiment que tout a été bien organisé de A à Z. Et je dirais que si vous pourrez ajouter des petites touches de par-ci, par-là, des petites attentions pour les surprendre, c'est également très chouette. Je m'en souviens, on avait fait un séjour il y a quelques semaines où les intervenantes avaient fait une soirée paillettes. Donc vous avez plein de paillettes, des petits tatouages dorés qu'on s'est mis sur le corps et on a pris de jolies photos. Et c'était un super icebreaker, c'était pas prévu au programme. Mais les participantes ont adoré parce qu'elles ont dit j'étais un peu stressée à l'idée de venir. Et en fait ça m'a complètement décomplexée. J'ai senti que voilà, on allait passer un super moment, qu'on était toutes à l'aise les unes avec les autres et c'était génial. Je vais juste rajouter une petite chose. L'importance des temps libres. Parce que finalement, quand on fait une retraite, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête, dans notre corps. Et il faut ce temps libre juste pour se poser et se dire « Waouh, je viens de vivre un truc. J'ai besoin de temps toute seule juste pour digérer ce qui vient de se passer. » Donc, si vous trouvez si c'est du temps libre, c'est pas grave, c'est même bien. C'est nécessaire. Voilà, pour ressentir toutes les émotions.
Il pourrait y avoir cette volonté de se dire faut que je comble parce que faut qu'en gros les participantes en aient pour leur argent ou voilà, et en fait pas du tout. Ces espaces-temps, oui, pour intégrer sont hyper importants aussi finalement.
Exactement.
Dans la retraite. Et est-ce que le lieu, alors t'en parlais un petit peu tout à l'heure, justement quand tu disais, connaître son persona pour savoir si je vais plutôt m'orienter sur un lieu luxe, grandiose, ou plutôt peut-être quelque chose de plus éco ou autre. Mais justement, est-ce que, t'as un petit peu répondu à la question, mais est-ce que ça a de l'importance? Et puis surtout, comment trouver ce lieu finalement, ce lieu qu'on recherche, ce lieu parfait? Est-ce que tu as des pistes à nous donner par rapport à ça?
Oui. Alors dans le cas de Limina, c'est vrai que nos choix de lieu sont plus ou moins dictés par la demande des profs de yoga qui nous contactent pour organiser leur séjour. Mais tout ça pour dire que le lieu est très important. Il doit vraiment être propice à la déconnexion. Il doit permettre de bien vivre le thème qui a été établi. Donc si vous proposez un thème sur la reconnexion à la nature, mais qu'on entend les voitures passer, c'est pas génial.
Okay.
Donc il faut vraiment que le lieu réponde aux besoins des participants, que ce soit de la relaxation, être proche de la nature. Voilà, vraiment que ça réponde au thème. Et selon la clientèle aussi que vous aurez, le lieu ne sera pas le même. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, une clientèle plus aisée préférera, par exemple, des chambres privées avec une salle de bain privée dans un espace plus luxueux, alors que peut-être que si votre clientèle a une petite bourse, c'est pas l'essentiel pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment se dire... j'ai un lit confortable, ça ne me dérange pas de partager ma salle de bain avec quelqu'un d'autre. Je viens là plus pour le côté contenu et transformation.
Mm-hmm.
Donc, soyez clair dans ce que vous recherchez dans le lieu. Faites-vous une liste. Est-ce que je veux des chambres privées, partagées? Est-ce que je veux une salle de pratique en intérieur? Parce que c'est décembre et donc il fait froid, donc il faut être en intérieur. Est-ce que c'est l'été, il fait beau, donc on peut se permettre d'être à l'extérieur? Qu'est-ce que j'ai besoin de sur place? Est-ce que j'ai besoin de tapis de yoga? Est-ce que j'ai besoin de blocs? Renseignez-vous auprès de l'hébergement sur ce qu'ils ont sur place. Après, c'est vrai qu'avec le Covid, nous, on suggérait aux participants de ramener leur propre tapis juste pour tranquillité d'esprit et question d'hygiène. Mais il y a des hébergements qui ont bien sûr leur tapis sur place, qui ont des bolsters. Donc vraiment, demandez une liste de ce qu'il y a d'accessible pour vous. En parlant d'accessibilité aussi, je pense que ça, c'est un point important. Selon la durée de votre retraite, faites en sorte que le lieu soit accessible. Si c'est pour un week-end, n'allez pas à l'autre bout de la France ou prendre un avion pour aller jusqu'au fin fond du Portugal. Les gens vont se dire, bon, ben, j'ai quand même 6 heures de trajet pour un week-end. Est-ce que ça vaut le coup ? Donc, essayez de réfléchir à l'accessibilité de l'hébergement. Donc, un bon ratio qu'on utilise, nous, c'est une heure de trajet, un jour de retraite. Donc, si par exemple il faut 4 heures pour arriver à l'hébergement, il faut se dire que le séjour doit faire minimum 4 jours.
Ok, ouais, c'est cool ça. C'est un bon tips.
Ouais. Et tu me demandais également où chercher. Ben, Internet, votre meilleur ami. Quand on n'est pas sur place, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver les lieux. Nous, on essaie toujours d'aller visiter les lieux en amont. Avec le Covid, c'est un peu compliqué. Mais le bouche à oreille, ça marche très bien. Renseignez-vous auprès des offices de tourisme parce que souvent ils ont des hébergements qui sont référencés, qui sont très chouettes pour les séjours bien-être. Regardez aussi ce que font les autres professeurs. S'ils ont utilisé ces lieux-là, c'est que forcément c'est adapté pour ce type de séjour.
Ok, donc en gros, ce qu'on peut retenir déjà, c'est que le lieu, il doit être finalement cohérent avec notre thème déjà. Ensuite, valider tout ce qui est équipement finalement, et puis faire des choix aussi entre ce qu'on a besoin ou pas, et versus peut-être donc notre client idéal. L'accessibilité, donc en termes de temps de route par rapport au temps de la retraite. Et puis effectivement, bah, pour où chercher. Alors soit on travaille avec vous et du coup vous avez déjà un catalogue d'endroits, il n'y a pas de mauvaise surprise entre guillemets, soit effectivement on peut aussi s'inspirer de ce qu'on voit sur internet ou de ce que font les autres. Et puis, autre sujet, tu disais tout à l'heure, peut-être avoir des lieux de pratique en intérieur si la retraite est en plein hiver. Alors justement, est-ce qu'il y a un moment idéal ou une période de l'année qui est recommandée ou qui fonctionne ou qui fonctionne pas d'ailleurs pour organiser sa retraite ?
Oui, encore une fois, ça dépend vraiment du contenu de votre séjour parce que si vous voulez faire du surf, ben vous n'allez pas faire ça en plein mois de décembre, sauf si vous êtes à Bali, évidemment. mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que les périodes estivales et les périodes de ski sont forcément des hautes saisons. Donc, qui veut dire beaucoup plus cher. Pas toujours très dispo parce que les gens ils réservent beaucoup à l'avance. Et pas mal de concurrence en termes de retraite. Donc, la période hors saison, c'est plutôt pas mal parce que c'est plus abordable, peut-être moins de concurrence aussi, plus facile à organiser. Mais je pense que ce qui est important, c'est tout d'abord, comme je le disais, faire en fonction de votre thème, de ce que vous voulez transmettre à vos participants et de votre clientèle. Si vous avez plutôt des parents qui peuvent laisser leurs enfants chez les grands-parents pendant les vacances scolaires, et ben misez plutôt les vacances scolaires. Si vous avez au contraire des élèves qui sont plutôt des célibataires ou des couples sans enfants, ils ont moins de contraintes. Donc encore une fois, c'est toujours comprendre qui est le client, qui est le participant.
Ok, et il y a vraiment des dates ou des périodes qui marchent pas du tout. Enfin, est-ce que vous observez quand même des périodes vraiment plus difficiles ou...
Alors, nous, on a fait l'erreur de lancer notre première retraite le dernier week-end de juillet, premier week-end d'août. Donc, c'était vraiment le pire week-end, je pense, parce que tous les juilletistes rentraient de vacances et tous les haussiens partaient en vacances, donc il n'y avait personne. On s'est dit, bon, plus jamais cette période-là. Je pense que si la veille des vacances de Noël, c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que les gens sont plutôt en train de réfléchir aux cadeaux, ils n'ont pas la tête à faire une retraite. Donc pour moi, c'est les deux moments où j'ai senti que c'était pas l'idéal. En fait, il y a tellement de besoins différents de gens. Enfin, je sais que j'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour dire « Pourquoi vous ne faites pas une retraite pendant les vacances scolaires ?» Parce que moi, je suis prof, c'est le seul moment que je peux faire des retraites. Ou d'autres « Moi, je suis infirmière, je travaille les week-ends, vous ne faites pas de retraite en semaine ?» Ouais, j'aimerais bien pouvoir faire des retraites pour tout le monde, mais ça dépend aussi... Enfin, c'est pas toujours facile de répondre à tous les besoins.
Non, mais en tout cas, oui, c'était quand même sympa, là, la petite anecdote que tu nous as partagée. Bon, déjà, comme quoi, on peut être le cordonnier le moins bien chaussé, c'est-à-dire que des fois, on peut se planter, et c'est pas grave, hein, test and learn, comme on dit. Et voilà, ça reste quand même effectivement des périodes où... il faut être vigilant. Et en termes de durée, du coup, est-ce qu'il y a une durée de retraite qui est... Enfin, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a une durée qui est plus plébiscitée qu'une autre ou une durée où on sent qu'il y a vraiment quand même des feedbacks très positifs ou pas du tout?
Je dirais que le minimum, c'est un week-end, donc du vendredi après-midi au dimanche après-midi. Parce que c'est le temps qu'il faut pour que les participants se déconnectent vraiment de leur quotidien, qu'ils se plongent dans l'ambiance de la retraite. Ce que je constate, c'est que souvent le premier soir, quand on arrive avant la cérémonie d'ouverture, on est là, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai fait le bon choix? On est un peu tendu. Et puis, une fois qu'on a fait la cérémonie d'ouverture, tout de suite, l'ambiance, elle change. Et c'est, j'ai trouvé mes sœurs de cœur. Voilà, c'est plus la même ambiance. Donc, il faut vraiment un petit temps d'adaptation. Donc, le minimum, nous, on recommande, c'est un week-end. Après, nous, on aime bien les séjours de 4 jours, 3 nuits. Ça permet d'aller un peu plus loin dans le travail sur soi. Ça donne un peu plus de temps pour faire des temps libres aussi, pour peut-être proposer d'autres activités. Si on est à côté de la plage, aller se balader sur la plage, par exemple. Et les séjours plus longs, donc plus de 5 jours, c'est bien si on veut faire... une variété d'activités. Donc peut-être si votre séjour c'est du yoga, mais que vous êtes à la montagne, peut-être que vous allez faire une journée de randonnée ou faire de l'escalade. Si vous êtes passionné de peinture, peut-être que c'est l'occasion de faire une après-midi peinture. Donc on a plus le temps d'explorer d'autres choses. Donc voilà, je dirais que un week-end, c'est le minimum.
Un week-end avec 2 jours, quand même. Enfin, avec 2 nuits, en fait. Hein, parce qu'effectivement, il y a l'effet du vendredi soir pour l'icebreaker du vendredi soir.
c'est ça. Et je dirais, de 3 à 5, 6 jours, c'est bien.
Ok. Et du coup, en termes d'animation, on voit souvent hein, quand même des... Enfin, en tout cas, moi, je vois beaucoup des retraites co-organisées, co-animées. Est-ce que ça se fait aussi des retraites avec un seul instructeur? Et peut-être ton retour d'expérience là-dessus, il y a peut-être des avantages ou des points forts et des points plus limitants
Alors effectivement, j'ai remarqué aussi cette tendance à être plusieurs animateurs sur un séjour. Ça demande une autre organisation. C'est très bien parce que du coup, on bénéficie de plusieurs expertises. Mais ce qu'il faut s'assurer, c'est que les intervenants aient entre guillemets le même temps de parole, qu'il n'y en a pas un qui monopolise 75% du temps et l'autre 25%. Donc vraiment, soit sûr qu'il y a un équilibre entre les pratiques. S'assurer que les pratiques soient complémentaires également, qu'ils aient la même vision de la retraite. Donc, c'est pas juste « Ah tiens, je travaille avec une naturopathe, je prends la première venue. » Non, mettez-vous d'accord sur c'est quoi la vision de cette retraite? Qu'est-ce qu'on veut transmettre aux participants? Sujet qui peut être un peu épineux, se mettre d'accord sur la rémunération. Voilà, donc si il y a le même temps de parole, c'est la même rémunération. S'il y en a un qui a plus d'ateliers, c'est aussi en fonction de... du temps de travail, si je puis dire. Ce qui est bien quand on organise un séjour avec un co-animateur ou une co-animatrice, c'est que ça permet de potentiellement toucher de nouvelles personnes qui sont en dehors de notre clientèle de base. Donc ça permet de faire rayonner notre activité sur d'autres plateformes, d'autres communautés. Et important, parce que de rien, être intervenant pendant un séjour bien-être, c'est très fatigant. Ça vous donne un peu de temps de pause lors de votre séjour, puisque vous avez quelqu'un qui est là pour prendre le relais. Donc c'est très bien pour se reposer. Donc bien sûr, c'est possible de faire des retraites à plusieurs, mais c'est aussi possible de faire des retraites avec un seul intervenant. Les avantages, c'est que vous êtes complètement autonome sur le contenu du séjour. C'est vraiment votre marque de fabrique, votre voix, votre vision qui sera dans ce séjour. Et si besoin, vous pouvez adapter plus facilement le programme en cours de retraite, parce que souvent, vous allez entendre une demande de plusieurs participants dire « Ah, tiens, ils veulent que j'insiste sur ce point-là, donc ok, je vais essayer d'adapter le cours de demain pour parler de ce sujet-là. » Ensuite, en termes de prix, moyen d'intervenant, moins c'est cher. Donc, il faut penser à ça aussi en termes d'accessibilité financière. Puisque quand vous êtes deux intervenants ou plus, il faut forcément penser au repas pour toutes ces personnes-là, à l'hébergement. Alors que quand on est juste seul, ben, c'est le repas pour une personne, l'hébergement pour une personne. Et donc, potentiellement, gagner plus aussi si vous êtes seul versus plusieurs intervenants. Donc voilà, il y a des pour et des contre. Je pense qu'aussi, ce qui est rassurant quand on est deux, c'est... on est plus rassuré de se dire, bon, je suis pas toute seule dans l'aventure, j'ai quelqu'un avec qui partager mes petites angoisses, qui sera là si jamais j'ai un bug pendant le séjour, qui sera là pour m'aider. On y va ensemble. Donc c'est vrai que c'est rassurant de faire ça à deux.
Et après, sinon, on peut aussi choisir l'option je fais tout seul, mais avec un organisateur, et auquel cas, on est quand même deux, mais on est tout seul sur le contenu finalement, et deux sur pour le soutien et les moments d'angoisse. je crois qu'on a quand même bien fait le tour, en tout cas sur tout ce qui est les contours d'une retraite, ce qu'on peut mettre dedans, le lieu, le temps, la durée, le sujet, la co-animation ou pas, etc. Et maintenant, on va rentrer dans les sujets un petit peu plus touchy. Comment déterminer le prix de sa retraite, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, qu'est-ce qui doit nous rester en fait en termes de marge dans la poche, quoi. Donc ça, c'est la question que tout le monde attend, je pense.
Je vais essayer de faire au plus simple parce que il y a plein de scénarios différents.
J'imagine.
J'essaie de vous donner une trame qui rentre dans tous les cas, dans tous les cas de figure. La première étape, c'est vraiment de définir les postes de dépenses. Donc, vous faites votre retraite, vous avez le programme. Où est-ce que vous allez dépenser de l'argent ? Ben, l'hébergement, les repas, ça c'est sûr. Selon ce que vous proposez, il y aura peut-être des activités. S'il y a un guide de montagne qui fait une randonnée avec vous, il faudra le payer. Est-ce que vous voulez proposer un transfert depuis la gare jusqu'à l'hébergement ? Il faudra le compter aussi. Donc voilà, définissez déjà tous les frais de dépenses, les postes de dépenses liés à la retraite elle-même. Et ensuite, il y a des dépenses annexes qui seront par exemple les coûts marketing. Vous dites, je vais définir un budget pour faire de la communication sur Instagram, sur Facebook, sur AdWords. Donc notez-le bien. Et prévoyez une petite marge pour des imprévus. Par exemple, votre billet de train est annulé, vous devez prendre de nouveaux billets et ils sont plus chers. Voilà, au moins vous n'avez pas perdu de l'argent sur ça. Ou un prestataire doit être changé parce que finalement, il s'est cassé la jambe, il ne peut pas venir cuisiner pour le séjour. Voilà, il faut prévoir des petits imprévus. Donc une fois que vous avez défini tous les postes de dépenses, il faudra calculer les frais fixes pour l'ensemble du séjour. Donc, je donnais des chiffres au hasard juste pour se projeter un petit peu plus. Mettons qu'un séjour, tout inclus, donc l'hébergement, les repas, les activités, tout ça, coûte 2 000 euros. Sans vos frais d'enseignement, c'est 2 000 euros. Vous savez donc que vous devez faire au moins 2000 euros de vente pour rembourser, pour rentrer dans vos frais. Prenons un exemple, la capacité de l'hébergement est de 10 personnes. Et vous vous dites, ben, j'aimerais être, pour être tranquille, il faudrait que je sois à l'équilibre au bout de 5 personnes. 5 personnes, je sais que je peux les attirer, c'est bon. Donc 2000 euros divisé par 5, ça fait 400 euros. Donc déjà, on peut dire que le prix de base, c'est 400 euros par personne pour que vous soyez à l'équilibre à partir de 5 personnes. Est-ce que c'est clair ?
Oui, oui, je suis.
Donc ça veut dire que vous devez impérativement vendre 5 places pour ne pas perdre de l'argent. Et après, vous pouvez définir ce que vous voulez gagner. Donc vous estimez, ben tiens, moi je pense que pour la charge de travail que je vais fournir pour ce séjour, il faudrait que je gagne environ 100 euros par participant. Donc si vous faites les 5, si vous vendez les 5 requis, vous gagnez déjà 500 euros. Une fois que les frais fixes sont remboursés, donc les 2000 euros, tout le reste c'est du bénéf pour vous. Donc ça c'est les grandes lignes.
C'est du chiffre d'affaires.
Ouais, c'est du chiffre, ouais. Voilà, c'est du chiffre d'affaires.
C'est pas forcément le bénéfice.
Oui, c'est du chiffre d'affaires. Là.
C'est du chiffre d'affaires.
Donc, j'essaye de vous donner les grandes lignes, mais il faut aussi prendre en compte que il peut exister plein de types de tarification possibles selon les prestataires que vous allez utiliser. Il y a des hébergements, par exemple, qui vont vous demander un minimum de X participants. Donc, vous ne pouvez pas dire ben, « moi, je vais être rentable au bout de 5 ». Ben non, il me demande 7. Donc, ça a changé mon calcul de rentabilité. Il y a des hébergements qui vont facturer à la personne. Donc, que vous soyez 5 ou 10, ben, il facturera pour 5 ou pour 6 ou pour 7 personnes. Des hébergements qui vont vous dire ben non, vous allez privatiser le lieu, que vous soyez 2 ou 10, moi c'est pareil, ça sera X euros. Et pareil pour le chef, il y a des chefs qui vont demander un minimum de X personnes ou qui vont dire ben il faut me dédouaner le transport parce que j'habite pas à côté, il faut me loger sur place. Donc il y a plein de cas de figure qu'il faudra. Donc c'est la trame que je vous ai donnée, c'est. Ça sera à peaufiner en fonction de vos prestataires. Ce qui est vraiment important quand vous faites votre tarification, c'est de calculer à partir de quel moment vous êtes rentable. Donc vous savez qu'à partir de 4 personnes c'est rentable, et bien c'est bien. Vous savez que vous devez attirer ces 4 personnes, ces 5 personnes, et après vous pouvez être tranquille.
C'est hyper intéressant et c'était très clair. Merci pour cette explication. Et alors du coup, justement en termes de paiement, les participants, alors ils payent en une fois ou alors est-ce que on doit, enfin moi je vois des retraites avec justement des demandes de paiement séparées, l'hébergement d'un côté, la demi-pension, le prof, etc. Alors pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qui se passe au niveau du paiement, là ? Est-ce qu'on touche à quelque chose ?
Oui. Alors, ce qu'il faut... C'est un sujet épineux. ce qu'il faut savoir, en fait, la réglementation en France nous indique que lorsque l'on souhaite vendre un package voyage, il faut avoir ce qu'on appelle une licence d'agence de voyage. Donc, un package, finalement, c'est défini comme deux éléments vendus ensemble. Ça peut être... l'enseignement plus l'hébergement, l'hébergement plus les repas, le transport plus les activités. Et la raison pour laquelle on voit souvent des paiements séparés, donc on paye d'un côté le prof, ensuite on paye l'hébergement et ensuite on paye le chef, c'est justement pour contourner un petit peu cette obligation d'être agence de voyage. Bon, en réalité, ça ne rend pas forcément la retraite davantage légale, parce qu'en fait, dans ce cas de figure-là, l'intervenant est considéré comme un intermédiaire entre les participants qui vont venir à ce séjour et les différents prestataires. C'est lui qui indique aux gens bah, « vous allez venir telle date, dans ce lieu-là, et on va faire ces activités-là ». Et donc, il est finalement organisateur d'un séjour. et normalement sans l'immatriculation à Tout France, donc qui permet de d'exercer en tant qu'agence de voyage, le séjour n'est pas légal.
Et oui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut en fait alors justement pour être légal, pour avoir le droit d'organiser une retraite, comment je me protège aussi, parce que derrière tout ça, il y a cette notion-là aussi de se protéger en tant que prof et puis protéger peut-être ses participants aussi.
Oui, effectivement. Alors, j'ai mentionné Atout France tout à l'heure. Donc, Atout France, c'est l'instance qui délivre ces fameux licences d'agences de voyage qui sont renouvelées tous les 3 ans. Donc, justement, pour s'assurer que les agences de voyage qui ont ces licences soient saines, soient respectent les contraintes légales. Donc il y a de nombreuses conditions à remplir, je vous en donne quelques-unes parce que j'ai pas envie de trop vous effrayer. Une des premières conditions, c'est d'avoir une société, donc créer une SAS, une SARL. Je crois que maintenant ils font aussi pour les micro-entrepreneurs, mais il faut un capital social de 7 500 €. Ensuite, il faut forcément avoir un garant financier. Donc dans le tourisme, l'instance qui gère ça s'appelle APST. C'est le garant financier que la plupart des agences utilisent. Mais on peut également faire appel à une banque qui se porte garant pour la société. Donc ça implique forcément de devoir faire un dossier, faire un business plan, présenter le projet à une commission qui valide ou pas, si le projet est viable, si on peut, ils se sentent assez à l'aise pour se porter garant. Et après, donc ça c'est juste pour avoir la licence Atout France. Et ensuite, comme toute entreprise, il faut les assurances qui vont bien avec. Donc dans le voyage, il faut une responsabilité civile professionnelle spéciale voyage et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de... En tout cas, moi, dans mes recherches, je n'ai pas vu beaucoup qui en proposent des assurances spéciales voyage. C'est un peu compliqué, surtout en ce moment avec le Covid.
Oui, j'imagine, oui.
Et donc, une fois que vous avez ça, on va dire que vos participants sont protégés. Ils sont couverts pendant le séjour. Par exemple, s'il y a une intoxication alimentaire ou si quelqu'un fait une chute et se foule la cheville, doit être rapatrié, les assurances d'agences de voyage couvrent ces pépins-là.
Ok. Et donc ça, hein, c'est logiquement ce par quoi on doit passer pour pouvoir organiser librement, oui, et surtout légalement, en fait, normalement, une retraite de yoga.
Voilà, exactement. Donc, si vous êtes professeur de yoga et que vous faites une retraite par an, je pense que l'effort ne vaut pas le coup pour vous de vous immatriculer. Mais si c'est quelque chose que vous avez envie de faire de manière très régulière, vous dites ben non, moi j'ai envie de faire deux retraites tous les mois, ben pensez à vous. Ce serait bien de se pencher sur le sujet.
Ok, super intéressant quand même, parce que c'est vrai que on a l'habitude, hein, toujours d'être un peu couteau suisse, système D, mais bon, c'est bien des fois de reposer un petit peu le cadre des choses, même si après chacun est libre de trouver ses options, mais effectivement. Ok, et en même temps, c'est vrai que ça protège aussi du coup les élèves à partir du moment où on agit comme ça dans un cadre légal. Merci pour toutes ces précisions. C'est vrai que c'est les sujets un petit peu administratifs, juridiques et financiers toujours un peu plus touchy. Alors, on va passer maintenant à tout ce qui est com et puis tout ce qui est promouvoir et vendre sa retraite quand même pour finir sur une bonne note et pour donner envie d'organiser des retraites. Alors, une question justement est souvent revenue un petit peu en lien d'ailleurs avec l'aspect financier, c'est comment réserver un lieu alors qu'on n'est pas sûr d'avoir des élèves. Est-ce qu'il faut choisir le lieu ou d'abord demander qui est intéressé, ou encore comment on fait justement pour ne pas avancer tous les frais? Donc, tu as répondu quand même à une partie de la question justement quand on a fait un petit peu le point sur l'enveloppe, les frais fixes, calculer son seuil de rentabilité, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un aspect justement très communication dans ce sujet. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, par rapport à ça?
Ouais, c'est un peu la question de qu'est-ce qui est venu avant, l'œuf ou la poule. Donc oui, ce que je disais au début, c'est vraiment comprendre les besoins de vos élèves dans un premier temps. Déjà, est-ce qu'ils ont envie que vous organisez une retraite ? Si ce n'est pas quelque chose qui leur parle, ne vous obstinez pas. Soyez leur écoute. Donc, sur le sujet, comment réserver un lieu alors qu'on n'est pas sûr d'avoir des élèves, qu'on ne peut pas avancer tous les frais, malheureusement, il faudrait avancer des frais. Mettez-vous un peu à la place de l'hébergement. Si vous privatisez un espace entier, ça veut dire qu'ils estiment que c'est vendu, ils ne vont plus faire l'effort de commercialiser cet espace pour ces dates-là. Et si vous ne payez rien et que vous annulez, en fait, l'hébergement perd un chiffre d'affaires potentiel. Donc voilà, il faut aussi se mettre à leur place pour comprendre pourquoi ils demandent des acomptes, des choses comme ça. C'est très simple, on peut pas y passer. Hein. Il y a des hébergements qui sont beaucoup plus souples, qui vont dire fais-moi un chèque d'acompte et puis tu as un délai pour annuler. Je sais qu'il y a des hébergements qui sont, surtout ceux qui organisent des retraites de yoga, qui sont très compréhensifs et qui savent que c'est pas toujours évident de remplir et qui se disent 30 jours avant, si vous pensez que vous n'avez pas atteint votre seuil de rentabilité, vous pouvez annuler votre séjour gratuitement. D'autres, ça sera plutôt 60 jours, 90 jours. Donc, voyez vraiment avec eux comment ils s'organisent. Et en fonction de ça, vous pourrez voir le délai qu'il vous faut finalement pour atteindre votre seuil de rentabilité. Si vous savez que vous devez absolument atteindre votre seuil de rentabilité 30 jours avant ou 60 jours avant parce que c'est le délai d'annulation de l'hébergement, vous avez votre deadline. Voilà, vous savez, il faut que j'atteigne 5 personnes 60 jours avant, j'en ai 4, j'ai 60 jours encore qui me restent pour convertir une personne, c'est faisable. Si vous avez 0 60 jours avant, là vous pouvez vous dire, malheureusement je pense que c'est pas bon, il y a peut-être quelque chose dans le contenu qui n'a pas attiré. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est les dates? Qu'est-ce qui convient pas? Essayez de comprendre un peu pourquoi vous n'avez pas non plus rempli le séjour et n'ayez pas peur d'annuler.
Vaut mieux refaire plus tard en profitant du feedback pour améliorer l'offre et puis se dire ok, la première fois ça n'a pas marché mais peut-être que j'étais pas claire sur ça ou le thème n'était pas le bon ou autre. Donc vaut mieux annuler, ne pas s'engager, ne pas se mettre dans l'embarras et puis finalement la réorganiser peut-être 2 mois plus tard ou l'année d'après même et puis voilà quoi.
Exactement.
Enfin, effectivement, moi, ce que je retiens là par rapport à ce que tu dis, déjà, c'est quelque chose que je dis souvent, mais c'est ne pas tomber amoureux, amoureuse de ses idées. C'est-à-dire que, ok, peut-être que soit on a envie de faire une retraite, c'est peut-être une satisfaction d'en organiser une. C'est peut-être sauf que si en face, j'ai pas encore la clientèle idéale pour ce type d'événement. Si, lorsque j'ai essayé de valider l'idée, le sondage, j'ai pas suffisamment de retours ou pas encore suffisamment d'élèves, il faut savoir reporter et visualiser cette idée pour plus tard. Mais donc, ne pas tomber amoureux de ce qu'on a envie de faire soi, mais que ce soit validé un petit peu en amont par les élèves et par les participants. Deuxième chose, ce que tu viens de dire là, parce que comment l'hôtel fonctionne, comment l'établissement fonctionne, mais c'est aussi le négocier, je pense, il faut oser dire moi, est-ce que vous me donnez un temps pendant lequel je peux encore annuler, quelle marge de manœuvre on se prend, donc ça demande aussi par contre effectivement de pas organiser la retraite à la dernière minute, de l'anticiper, donc de la planifier dans son planning de l'année dans les offres qu'on veut proposer effectivement, mais ça je pense qu'il faut aussi oser le demander et le négocier et du coup on en revient quand même un petit peu à ce que moi je préconise quand même, c'est quelque part ce qu'on va appeler des préventes entre guillemets, dans le sens où je vends avant de confirmer justement auprès des prestataires ou auprès de l'hébergement pour être sûr que comme tu disais j'ai atteint à minima mon seuil de rentabilité au moment où j'avance les frais, et si l'équation n'est pas bonne, comme tu le dis très justement, vaut mieux annuler et réviser sa copie et revenir un petit peu plus tard plutôt que vraiment de se mettre en défaut. Enfin, ça peut devenir une très mauvaise expérience et avoir des conséquences financières importantes. Donc, Donc effectivement, voilà comment moi je résumerais un petit peu cet aspect, ce jeu de l'œuf ou de la poule, trouver les clients ou d'abord réserver l'endroit, payer l'endroit. Et justement, en termes un petit peu de pré-vente à ce moment-là, est-ce que t'as des, enfin est-ce que vous avez des techniques ou comment vous fonctionnez avec Lumina par rapport à tout ce qui est tarif early bird, tarif voilà, est-ce que c'est des choses qu'on peut mettre en place et qui peuvent aider justement par rapport à ça?
Ouais, je pense qu'on a fait pas mal de test and learn. Au départ, on faisait toujours des early birds. On a essayé plusieurs formats. Donc, soit le format X première place en early bird. Donc, soit parmi les 5 premiers à réserver. On a essayé le format early bird sur 2 semaines. On continue d'essayer, en fait, parce que je pense que... selon les séjours, selon les thèmes, ça attire pas forcément les mêmes personnes. Donc voilà, nous on est toujours dans l'état d'esprit, on teste et puis on voit ce qui fonctionne. Et puis si ça fonctionne bien, on garde. Si ça fonctionne plus, on change, on adapte. Mais oui, on fait souvent des early birds. Une chose qu'il faut garder en tête quand vous faites des early birds, en lien avec la tarification, c'est qu'un early bird impacte votre chiffre d'affaires et vos bénéfices. Donc si vous avez défini un seuil de rentabilité à 5 personnes, peut-être que le fait de faire un early bird va éloigner votre seuil de rentabilité. Il faudrait vendre 6 places. Donc pensez à ça. Est-ce que vous pouvez vous permettre d'offrir un early bird? Si oui, faites-le, c'est très bien. Sinon... ben, peut-être qu'il faudra trouver d'autres techniques.
Un bonus, peut-être, oui. Ou ça peut être rajouter quelque chose. Ça peut être justement aussi avoir accès, par exemple... moi, je travaille beaucoup avec des clients... mes profs de yoga qui créent des offres digitales, ça peut être aussi l'achat de la retraite, plus je sais pas, soit on a un partenariat, une collab avec quelqu'un et donc on offre un goodies ou quelque chose mais qui est valorisé, enfin qu'on peut valoriser, plus l'accès à un programme en ligne sur quelque chose, enfin voilà, ça peut être aussi rajouter dans le package, en fait, pour ne pas avoir à baisser son prix, bah ajouter quelque chose. Ça peut être pourquoi pas une séance one-one sur Zoom, tu vois, si on est sur un petit lot de participants, on peut très bien se dire bah, j'offre en plus aux premières personnes qui vont réserver un cours privé sur Zoom qui peut être utilisé au long de l'année. Ça peut être ça aussi. Oui, on n'est pas forcément toujours obligé de dégrever effectivement son prix, donc je pense que c'est ça que tu voulais dire. Soit on peut se le permettre, soit effectivement on va aller chercher du bonus, d'autres bonus complémentaires. Et il y a une idée, un ratio du early bird idéal entre le prix de l'early bird et le prix normal, en fait, qu'on va faire à la sorte. Enfin, je sais pas, c'est genre 50 euros ou c'est plutôt en pourcentage ou il y a quelque chose, il y a un ratio type, il y a une moyenne ou...
Je pense qu'il, plutôt que de réfléchir à il faut que je fasse une réduction de 10%, se dire ben. Quel est le prix qui va attirer? Si votre prix de base, il est de 420 euros, par exemple, pour un séjour, dans l'esprit, le prix psychologique que les gens n'ont pas envie de dépasser, peut-être, c'est 400 euros. Donc, se dire, je le vends à 395.
Ouais.
Donc, réfléchir comme ça. Et bien sûr, calculer que ça ne va pas trop vous flinguer votre chiffre d'affaires.
Très juste. Et du coup, je pense aussi, quand on sait qu'on va proposer quelque chose, qu'on va avoir un tarif early bird, qu'on a quelque chose qui arrive, c'est déjà anticiper la communication en amont. Créer un peu pas le mystère, mais créer un peu l'événement, dire voilà, il y a quelque chose qui va arriver. Bientôt une retraite, etc. Attention, les places vont bientôt être mises en ligne, etc. Ce qui fait que déjà, psychologiquement, mon élève ou mon client, il se prépare, il visualise le fait qu'il va s'offrir cette retraite. Et donc, le jour où ça sort, effectivement, tout de suite, c'est plus facile de passer à l'achat. En fait, c'est un petit peu aussi ce qu'on fait quand on lance une offre en ligne. C'est-à-dire, il y a un peu ce qu'on appelle le préchauffage, quoi. On va venir préchauffer notre audience pour qu'elle soit prête et pour qu'il y ait plus de barrières entre guillemets à l'achat le jour où on va proposer et lancer la retraite.
Ouais, c'est ça. Donc À partir du moment où vous savez que vous voulez, vous allez lancer comme tu as très bien expliqué, commencer à commercialiser votre retraite, tenez-vous un peu de temps en avance pour dire, voilà, je prépare quelque chose d'assez exceptionnel, ça prend en face de fait, on se donne rendez-vous à telle date pour le lancement des réservations. Faites un peu de teasing, sur ce qu'il y aura sur le contenu du séjour. Mais oui, ça ne s'improvise pas, hein. C'est quelque chose qu'il faut organiser. Aussi bien la partie organisation, parce que ça prend du temps finalement organiser un séjour, mais aussi bien la partie communication. Donc s'assurer qu'au moment du lancement de la retraite, vous avez les visuels pour bien communiquer dessus. Vous savez ce que vous voulez dire et à quel moment. C'est pas juste j'ai une retraite, allez, réservez s'il vous plaît.
Ouais. Et il y a justement un rétro-planning idéal. Enfin, tu peux nous donner des fourchettes de timing pour communiquer justement.
Alors moi je vais parler plutôt du rétro-planning pour l'organisation. Oui. Je pense que à partir du moment où on commence à commercialiser et le moment où a lieu la retraite, il faut compter 3-4 mois. Selon la communauté qu'on a. N'oubliez pas aussi que l'organisation, juste envoyer des emails aux hébergements, avoir leur retour, avoir les devis, commencer à faire la tarification, ça peut prendre du temps. Donc donnez-vous 2-3 semaines pour toute la partie en amont du lancement, enfin toute la partie disons administrative logistique. Car il peut y avoir des latences des fois pour avoir des retours des prestataires. Et aussi, regardez aussi en fonction des conditions d'annulation, comme je disais. Mm-hmm. Ouais. Si le prestataire, l'hébergement, dit que vous pouvez annuler gratuitement 90 jours avant, vous n'allez pas lancer votre retraite 2 mois avant. Voilà. Mais grosso modo, je dirais que faites du teasing sur 1 à 2 semaines. Pour dire il va se passer quelque chose d'assez incroyable, save the date, telle date, on lance la commercialisation de notre séjour, ce sera sur cette thématique-là, on vous en dira un petit peu plus par la suite, et faites des rappels réguliers. Je pense que toi, Cécile, c'est quelque chose que tu connais bien, oui. Mais sur les réseaux sociaux, les followers, ils ont pas beaucoup d'attention, donc il faut répéter les choses. Je crois que la statistique c'est 7-8 fois avant que
c'est ça.
avant qu'ils s'imprègnent de l'information, disent ah mais je savais pas. Je dis souvent ah mais je savais pas que vous faisiez une retraite. Oui, bah, pourtant je l'ai dit plusieurs fois.
Ouais, c'est clair.
pas hésiter à relancer régulièrement, varier les outils de communication. Pour attirer le plus de plus de personnes et avoir le plus de visibilité possible.
Yes, donc si j'essaye de faire une petite synthèse, on va dire que voilà, idéalement, hein, c'est à minima, allez, 4 mois avant l'organisation de la retraite, je commence déjà à me pencher sur ce que je veux. Et je contacte les hébergements, les prestataires, je réfléchis en parallèle de ça à mon contenu, à mes ateliers, etc. Je prévois 2-3 semaines de travail, donc on va dire le M-4 en fait, il est dédié à tout ça, envoyer les demandes, les coups de fil, essayer de bien que tout mix and match. Et par rapport et donc à mon avis en général c'est minima, je pense, comme tu le disais, entre 60 et 90 jours pour, au cas où, annuler l'événement et ne pas avoir de frais à avancer. Donc, effectivement, prévoir ma période de, quelque part, de pré-vente, d'early bird, à ce moment-là. Ce qui veut dire que, selon la deadline, l'échéance de cette période avant laquelle je peux encore annuler la retraite auprès des prestataires, je dois avoir effectivement ouvert mes préventes en fait. Et avant ces préventes et la fermeture finalement du panier, toujours bien préparer l'audience pendant au moins une quinzaine de jours. Voilà, pourquoi une retraite, les avantages d'une retraite. Enfin, ça, après, effectivement, moi, c'est des sujets que j'aborde très souvent, mais une stratégie qui est bien orientée sur, voilà, à la fois donner envie, pourquoi on en a besoin, faire tomber un petit peu tout ce qui est croyances limitantes sur les retraites, peut-être, tout ce qui est objections, tout ce qui est, voilà, les fausses idées reçues ou autres, et donc donner envie. Et puis, bah, pour le coup, pendant la période d'ouverture des ventes, comme tu dis, c'est plutôt optimiser, avoir une omniprésence sur plusieurs supports avec la retraite, c'est de quand à quand, ça coûte combien, il y a quoi dedans, comment s'inscrire, etc. Donc là, ça va plutôt être de plonger finalement l'élève au cœur de la retraite. Voilà, pourquoi pas aussi faire, si on peut se permettre, un... des room tours, de l'hébergement, du lieu, voilà, montrer le contenu régulièrement, tout ça. Donc voilà, donc pour le rétro-planning, je pense que c'est quand même finalement assez clair, et c'est comme dans tout lancement d'offres, en fait, hein, voilà, moi j'ai tendance à conseiller de commencer par ça, établir son rétro-planning pour savoir quand travailler sur le contenu et ce dont on a besoin, en fait, pour rendre l'événement possible, quand travailler sur la communication pour préchauffer son audience, quand travailler sur l'ouverture de panier et les ventes, et puis bah, quand est-ce que je clôture ça, et qu'est-ce que je fais, en fait, en termes aussi d'onboarding, entre le moment où je vais clôturer mes ventes et le moment de la retraite. Prévoir aussi cet espace-temps, parce que s'il se passe effectivement un mois et demi, garder les gens peut-être aussi... focus sur cet événement à venir. Ok, donc écoute, bah, ça me paraît assez clair. Vous, en termes de communication, justement, l'intérêt, si je passe par un prestataire, est-ce que vous apportez du soutien, du coup, sur cet aspect-là aussi à vos clients ?
Oui, alors en fait, nous, on est là avant, pendant et après le séjour pour les accompagner, justement. Donc avant même de commencer l'organisation, nous, on prend le temps d'échanger avec les intervenants pour vraiment comprendre quel est le but. Encore une fois, je me répète peut-être, mais c'est vraiment comprendre quel est le but, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'ils ont envie de transmettre durant ce séjour. Donc on échange sur le contenu du séjour pour définir bah, quels sont les ateliers qui seront proposés, quel est le thème, le peaufiner ensemble s'ils ont un petit peu des doutes sur la sexy, si c'est assez sexy ou attirant pour les participants, valider ensemble le déroulé du séjour, les briefer aussi sur l'hébergement, parce que ça fait aussi partie des critères de sélection d'une retraite pour les participants. Est-ce que l'hébergement leur paraît bien? Échanger sur le parcours de l'intervenant, sa philosophie, ce qu'elle souhaite, il ou elle souhaite transmettre. L'idée, c'est vraiment que aussi bien Lumina Travel que l'intervenant aient plein d'outils de communication pour faire vivre la communication de cette retraite. Et donc, pour l'ensemble de nos séjours, on prévoit bien sûr de communiquer dessus, que ce soit via notre newsletter, nos réseaux sociaux, des campagnes AdWords. On organise des lives avec les intervenants pour qu'ils puissent justement parler à notre communauté. Nous créons une page sur notre site pour présenter leur univers. Voilà, l'idée, c'est que on fasse le maximum de notre côté aussi pour rendre le séjour et l'intervenant aussi visible que possible. Mais il faut quand même garder en tête qu'il s'agit d'un partenariat entre Lumina et l'intervenant. Donc l'intervenant doit également communiquer sur son séjour auprès de ses élèves, auprès de sa communauté. Parce que finalement, c'est lui, c'est elle qui va réussir à les convertir en premier. Si un élève suit un professeur depuis des années, bah, il sera le premier à se dire « Oh là là, un tel lance une retraite, mais j'y vais direct. »
Évidemment, donc, ouais. Mais c'est quand même hyper intéressant d'avoir ce soutien, ce backup quand on démarre ou quand c'est notre premier événement, effectivement. Est-ce que tu peux nous résumer finalement les avantages à commencer avec un partenaire de voyage comme Lumina ?
Oui, bien sûr. Je pense que l'intérêt principal, c'est de bénéficier de notre expertise finalement en tant qu'agence de voyage. Ying et moi, on organise des voyages depuis de nombreuses années, donc c'est un secteur qu'on connaît bien. Et on sait organiser, si vous voulez, on saura organiser le séjour de vos rêves. On a aussi commencé à construire une bonne base d'hébergement. donc qu'on a plus ou moins trié en se disant bah lui il est idéal pour un séjour yoga, lui plutôt pour un séjour développement personnel. Donc on saura vous guider dans le choix de l'hébergement. Et surtout, je pense que vous gagnez du temps finalement, parce que le temps que vous allez consacrer à chercher un hébergement, le contacter, chercher les prestataires, créer la page sur le site internet, ben en fait c'est du temps que vous gagnez pour soit peaufiner le contenu de votre séjour, pour donner des cours, peut-être vous former sur autre chose. Donc c'est vraiment un gain de temps. Je crois qu'on avait calculé avec Ying, mon associé, vous économisez, je pense, 7 à 8 jours de travail. Parce qu'il n'y a pas que la partie organisation aussi, il y a le suivi avec les clients potentiels qui demandent « J'ai vu cette retraite-là, j'ai des questions, comment est-ce que j'y accède? Est-ce que je peux partager la chambre avec mon ami ?»
Ouais. Est-ce que tout c'est le customer care, quoi.
Ça prend énormément de temps. Et au-delà de ça, on vous donne finalement le cadre légal, puisque nous, on est une agence immatriculée, donc vous pouvez partir l'esprit tranquille.
Oui, et exactement, j'allais conclure un peu tout ça avec finalement la tranquillité d'esprit aussi. On gagne du temps, mais on gagne aussi en termes de confort, en termes de charge mentale et en termes de tranquillité d'esprit. Et pour le coup, ça n'a pas de prix, en effet. Moi, je suis convaincue. Alors, comment je fais si je veux organiser ma retraite et puis concrètement travailler avec Lumina? Comment ça marche? Comment on vous contacte? Comment ça se passe?
Alors, vous pouvez nous contacter par email ou par téléphone. Vous trouverez toutes nos infos, nos coordonnées sur notre site internet qui est www.lumina-travel.com. Vous nous faites part de vos envies et on va commencer par un échange entre Lumina et l'intervenant pour un peu comprendre c'est quoi les besoins. Si l'intervenant veut faire un séjour au mois d'hiver, ben on va trouver un joli chalet à la montagne par exemple. C'est vraiment on échange pour voir déjà s'il y a un fit aussi entre Lumina et l'intervenant, si on peut répondre favorablement à la demande. Pour l'instant, on n'a jamais refusé d'intervenant. Et une fois qu'on a défini les contours du séjour, nous on se charge de tout. Donc comme je disais, on accompagne avant, pendant et après le séjour. Donc avant, c'est toute la partie organisation, faire la tarification, trouver le lieu, les prestataires. Pendant le séjour, si vous souhaitez une présence sur place, on s'y rend aussi. Donc comme ça, on est là pour faire le lien avec les différents prestataires, vous tenir la main si vous avez besoin un peu de soutien moral, on est là pour vous. Et après le séjour...
Comme une wedding planner.
C'est ça.
Le jour du mariage.
Ouais. Et après le séjour, on est là pour récolter le feedback des participants, faire le point ensemble sur ce que vous avez aimé, pas aimé, ce qu'on peut améliorer, comment vous imaginez la suite. Est-ce que c'est une retraite qui est en continuité de ce que vous avez fait, ou est-ce qu'on répète la même retraite parce que vous sentez qu'il y a un besoin auprès de votre communauté? Donc voilà, on est là vraiment pour vous accompagner. En fait, ce que tu dis, c'est tout à fait juste. On est les wedding planeuses des séjours bien-être.
Ouais, c'est mon job un peu de formuler des elevator pitch, tu sais, des USP. Alors, ouais, voilà, les wedding planeuses des séjours bien-être, c'est vous. C'est ça. Et j'aime bien ce que tu viens de dire aussi sur la notion d'après, parce que ça c'est souvent oublié quand on est dans l'action et qu'on organise quelque chose, de faire une audite de tout ce qui s'est passé et puis d'aller récolter les feedbacks auprès des participants. Et ça en fait c'est indispensable. Oui. Et souvent une fois que le séjour est terminé, voilà, on est fatigué, on se repose et puis on passe à autre chose, et du coup quand on veut éventuellement réorganiser quelque chose, on n'a pas fait forcément cette audite, on n'a pas forcément de feedback, alors que c'est hyper précieux pour organiser d'autres événements. Donc j'aime bien le concept d'être là avant, pendant et après, en effet. Un petit quelque chose à télécharger peut-être, je crois.
Oui.
Spécialement pour l'occasion.
Exactement. Donc pour l'occasion, on a créé un petit e-book qui s'appelle « Organiser votre retraite bien-être ». Donc on récapitule un petit peu ce qu'on vient de se dire pendant cette discussion et de vous donner quelques pistes en plus pour organiser votre séjour.
Eh ben c'est super. Donc moi, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse vous retrouver, vous contacter et surtout aller télécharger ce précieux workbook qu'on me demande aussi très régulièrement. Donc, merci d'avoir fait ce petit cadeau gratuit pour nos auditeurs et nos auditrices. Écoute, un grand merci à toi pour toutes ces pépites. Je crois qu'on a vraiment bien traité le sujet en long, en large et en travers. Et puis maintenant, les profs de yoga savent aussi à qui s'adresser, s'ils ont des questions, s'ils ont envie d'organiser un séjour. Donc ça, je trouve ça chouette. Et avant qu'on se quitte, j'avais envie de donner justement un petit travail aux profs de yoga, un petit challenge à relever. Je propose de partager cet épisode en story sur vos réseaux sociaux, sur Instagram, et justement de faire un petit sondage auprès de vos élèves, d'utiliser les sondages Instagram et de leur demander s'ils seraient tentés par une retraite de yoga, pourquoi pas aussi leur faire un petit quiz sur le sujet qu'ils pourraient préférer. Voilà, donc moi je vous invite tout de suite après l'écoute de cet épisode d'en profiter, de rester dans la dynamique et d'interroger votre audience avec un petit sondage en partageant l'épisode. Voilà, ça vous a donné envie et vous leur demandez si eux aussi ils auraient envie de faire une retraite de yoga avec vous. Et puis si la réponse est oui à la majorité, vous savez que vous pouvez contacter Lumina Travel pour vous aider dans l'organisation de votre prochaine retraite. Voilà, un grand merci. À très vite, Marie-Dominique, j'espère. Merci, j'espère Cécile. Moi aussi organiser ma retraite un jour. Merci beaucoup à toi.
Avec plaisir.
Si tu as écouté jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Si tu veux supporter YogiBiz Podcast, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un témoignage sur Apple Podcast. Et c'est vraiment simple à faire. Tu vas sur l'application Apple Podcast, tu cherches YogiBiz Podcast et une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, tu cliques sur s'abonner et puis tu descends tout en bas jusqu'à la section évaluation et avis. Ici, tu cliques sur 5 étoiles et tu peux me laisser ton témoignage. Dis-moi par exemple pourquoi tu écoutes YogiBiz Podcast et comment le podcast a eu un impact dans ton business. Un énorme merci à toi d'avoir pris le temps. À la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.